Élections législatives 2017 sur Air d'Otan. 15 minutes avec chaque candidat des trois circonscriptions du Tarn.
Nous sommes avec Boris Jiménez-Sastre, avec Thierry Tiget. Ils représentent Lutte ouvrière sur cette seconde circonscription du Tarn. Monsieur Boris Jiménez-Sastre, bonjour.
Bonjour.
Alors présentez-vous, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes, quelles sont vos convictions et valeurs politiques pour aujourd'hui cet engagement dans le cadre de cette élection législative, même si l'on sait que vous êtes déjà habitué à un certain nombre de scrutins pour avoir été vous-même candidat lors des précédentes législatives de 2012, toujours et encore pour Lutte ouvrière, et y compris pour des élections plus récentes au niveau régional.
Donc bonjour, alors je suis professeur des écoles et comme vous l'avez dit, candidat Lutte ouvrière dans la deuxième circonscription du Tarn. Et si je me présente, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, comme Nathalie Arthaud l'a fait au moment des élections présidentielles. C'est-à-dire faire entendre les exigences des ouvriers, des caissières, des employés, des enseignants, des chômeurs, des retraités. Tout ce qui constitue en fait l'immense majorité de la population, tous ceux qui faisons tout tourner, qui produisons toutes les richesses de cette société.
La base en somme.
Oui, la base. Et puis je parle vraiment d'exigences parce que on subit les attaques. On subit les attaques des grands patrons, on subit les attaques de la bourgeoisie. Et ces attaques-là, elles vont continuer. Le gouvernement Macron, là, fraîchement élu, a déjà annoncé la couleur. Démolition du code du travail, fin des 35 heures, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, facilitation des licenciements. On est quand même dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. Et là, toutes ces mesures, on sait déjà que d'autres vont venir s'y ajouter. Hein. Et ceux qui ont un logement ou qui ne leur permettent pas de vivre décemment ou une pension trop basse, leur nombre va s'accroître encore, quoi.
Comment on a rejoint Lutte ouvrière? C'est par rapport à des convictions profondes que vous avez vous-même?
C'est par rapport à, j'allais dire, le fait de vivre dans un monde où plus on produit des richesses, plus on avance technologiquement, plus l'humanité est socialement capable de produire des choses, plus on s'enfonce dans la misère. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent de maladies qu'on sait soigner. Il y a des progrès techniques qui sont réservés à une infime minorité alors que l'immense majorité de la population pourrait en avoir besoin. Et c'est une société qui fonctionne sur le gâchis. Enfin, aujourd'hui, il y a combien de futurs Einstein ou de futurs Mozart qui meurent dans un bidonville à Calcutta et dont on se prive du talent? Et c'est cette révolte, c'est ça qui nourrit mon engagement.
Pour Nathalie Arthaud, le cœur de la problématique, c'est justement le monde du travail, l'entreprise. On est un petit peu aussi dans cette optique-là. C'est finalement à partir de ce socle qu'on va proposer un programme et des revendications.
Moi, je pense que tout part de là, effectivement, parce que on discute de richesse, on discute de construction technique, technologique, de prouesse de la science pour envoyer un astronaute comme Thomas Pesquet en orbite. Enfin, c'est des choses qui, il y a quelques décennies où il y a un siècle, avaient l'air inimaginables. Et pourtant, on vit au milieu d'inégalités. Et moi, je crois que justement, tous les travailleurs, tous ceux qui produisons ces richesses, tous ceux qui les rendons possibles, ben on a le droit de décider de rien, ni de comment on travaille, ni de comment on produit, ni de comment on organise la société, ni de comment pourrait tourner le monde. Au lieu de ça, c'est juste une petite minorité de privilégiés qui organisent tout ça en fonction de leur profit propre. Ben moi, je trouve que c'est absurde et c'est ça que je voudrais changer.
Est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi des situations quelque peu paradoxales? Pendant très longtemps, on nous a vanté la délocalisation en expliquant que le coût du travail était trop important, que les salariés coûtaient trop et qu'il fallait donc pour cela partir parfois à l'autre bout du monde. On accusait effectivement les taxes sociales, les charges sociales de coûter trop cher aux employeurs pour finalement aujourd'hui, dans notre propre département du Tarn, voir il y a quelques jours le retour d'une entreprise chinoise qui fait l'inverse et qui vient s'installer en France comme si finalement, en réalité, il n'y avait pas d'obstacle particulier et que ce coût du travail, finalement, qu'il soit en France ou ailleurs, il n'était pas si important que ça et que c'était donc finalement peut-être un faux prétexte.
Vous savez, moi je crois que par rapport à ça, le vrai problème, c'est un problème politique. C'est en fonction de quels intérêts est organisée la société. Là, on est dans une société, pas simplement en France, hein, même au niveau européen ou international, qui fonctionne pour les intérêts d'une minorité d'actionnaires, de très grands groupes, de très grandes industries transnationales. Tout est organisé en fonction de leurs intérêts, y compris les justifications qu'ils donnent. À chaque fois, ce qu'ils essayent de faire rentrer dans la tête des gens, c'est il faut que le patron soit heureux, il faut que les actionnaires soient heureux. Et ils sont prêts à toutes les contorsions mentales. De toute façon, les salariés coûteront toujours trop cher. De toute façon, les retraites, c'est toujours trop. Les congés payés, c'est toujours trop. Il a toujours fallu se battre pour qu'on les obtienne.
On est donc pour la taxation justement de ces capitaux, des intérêts que perçoivent les actionnaires des entreprises pour celles qui sont effectivement cotées et qui ont évidemment des actionnaires.
Moi, je suis pour que ce soit les travailleurs qui contrôlent et qui décident ce qui se passe au-delà des...
Au-delà, c'est donc vraiment une réforme de la gouvernance de l'entreprise que l'on souhaite.
C'est un changement de toute la société. Vous savez, il y a une entreprise là à Gaillac, Alphacan, qui va avoir supprimé 92 postes. Là, c'est en cours. C'est un changement d'activité pour sa chaîne d'extrusion qui part dans la Sarthe. Alors, dans la Sarthe, ils font 24 emplois. Bon, c'est très bien, hein. Tant mieux que des travailleurs en Sarthe aient un boulot, mais aucun employé de Gaillac ne doit perdre son emploi. Le groupe Alphacan, il appartient à un groupe qui s'appelle Ivy Group, hein, de Michel de Cresny. C'est quand même un groupe, le troisième producteur de PVC européen et qui a dégagé 14 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Et bien avec cet argent-là, il y a notamment de quoi garder tous les emplois et en Sarthe et à Gaillac. Moi, je suis pour que justement les travailleurs ils décident, ils puissent contrôler ce qui se passe dans les entreprises.
Et pourquoi pas, si besoin, interdire ces licenciements injustifiés ?
Complètement. Aujourd'hui, on est dans une période de crise. C'est un crime social de perdre son emploi. Comme je disais, il y a 6 millions de chômeurs, enfin plus de 6 millions de chômeurs à l'échelle nationale. Le département du Tarn est au-dessus de la moyenne nationale. Et moi, je crois que si on veut vraiment combattre le chômage, la première des choses, ce serait d'interdire les licenciements et de partager le travail entre tous. C'est quand même aberrant qu'une partie de la population soit privée d'emploi pendant qu'une autre partie se retrouve à trimer sous des heures supplémentaires, à se faire démolir au boulot.
Boris Jiménez-Sastre, vous briguez donc un mandat de député pour une deuxième fois après 2012. Le principal rôle du parlementaire, c'est le vote de la loi. Alors, si demain, ces électeurs de cette seconde circonscription vous portaient à l'Assemblée nationale comme député, quelles seraient vos premières propositions et quel serait éventuellement le premier projet de loi que vous demanderiez au gouvernement de présenter devant votre Assemblée et devant l'Assemblée nationale ?
Alors, déjà, je ne brigue pas un poste de parlementaire parce que c'est une surprise pour personne, je ne serai pas élu. Hein. Par contre, ce que je veux faire au travers de ces élections, c'est défendre des idées, défendre le fait que les travailleurs doivent défendre leurs propres intérêts eux-mêmes. C'est ça qui manque. Alors, parmi des lois qu'on pourrait mettre en avant, parmi des propositions, moi je crois surtout qu'il faudrait imposer la suppression du secret des affaires. Parce que un patron sait tout de ses employés. Combien ils lui versent de salaire, quand est-ce que ceux-ci sont absents pour maladie ou pour la maladie de leurs enfants. Avec le prélèvement à la source, ils vont même savoir combien ils déclarent, est-ce qu'ils sont imposables et tout ça. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Un employé ne sait pas combien gagne son patron, ne sait pas quel argent est tiré de l'entreprise, quel est le trajet de cet argent, est-ce qu'il est réinvesti, mis sur un compte, on ne sait pas ce que ça devient. Pourtant, cet argent-là, il est quand même créé par notre travail. Il n'y a qu'à voir, quand il y a un plan de suppression d'emploi ou de transfert d'activité, c'est toujours les salariés qui sont les derniers au courant. Pourtant, c'est les premiers concernés. Bon, ben moi je crois que justement, avec la suppression du secret des affaires, on pourrait voir où est-ce que va l'argent et qu'il y a de l'argent. Vous savez, je crois qu'il n'y a aucun salaire qui devrait être inférieur à 1 800 euros, aucune pension qui devrait être inférieure à 1 800 euros. Et je vais vous prendre comme exemple l'affaire GMES qui occupe l'actualité là ces temps-ci. C'est une petite boîte d'une à peu près 300 personnes. Bon, sauf que cette petite boîte, ils fournissent du matériel à Peugeot et à Renault.
Des sous-traitants.
Des sous-traitants qui ne sont pas des PME du coin. Peugeot et Renault, c'est des trusts qui font des millions et pour certains des milliards de profits. Et c'est ceux-là qui ont organisé, en arrêtant les commandes, la faillite de GMES. Carlos Ghosn gagne 45 000 euros, pas par an, 45 000 euros par jour, le samedi, le dimanche, les jours fériés. C'est ce même Carlos Ghosn qui dit qu'on ne peut pas augmenter les salaires, qu'on ne peut pas embaucher des gens et qui organise la fermeture de GMS. Donc en suivant le compte de l'argent, si tous les salariés pouvaient se transformer en lanceurs d'alerte, on aurait les moyens de se défendre contre ça.
On va poursuivre toujours sur cette thématique avec peut-être un autre point que vous n'auriez pas abordé jusqu'à présent, que vous voudriez mettre plus particulièrement en exergue et en avant.
Je voudrais répondre d'une manière générale à tous ceux qui présentent, tous les partis ou toutes les organisations qui présentent le protectionnisme comme une solution à nos problèmes. Qui présenterait les travailleurs espagnols, allemands ou lituaniens comme les ennemis des travailleurs français. Moi, je crois justement que c'est nos frères de travail, nos frères de classe, et que ce qui nous lie, c'est qu'on a les mêmes patrons sur le dos. Les ouvriers de Gaillac, ils ont des alliés avec les ouvriers de la Sarthe pour Alphacan. Les travailleurs de Continental en Espagne ont les mêmes patrons que Continental dans la région toulousaine. Et moi, je crois que justement, c'est cette force-là qui peut... La force du nombre, la force d'être tous ensemble en train de tout faire tourner dans cette société qui peut nous assurer un avenir meilleur, ou en tout cas une lutte possible. Et tous ceux qui essayent de nous dresser les uns contre les autres, en salariés du public contre ceux du privé, entre intérimaires contre embauchés, les CDI, les CDD, bon, tout ça c'est essayer de nous faire rentrer des barrières dans la tête, essayer de nous affaiblir, essayer de nous diviser, et notre division elle renforce le camp des grands patrons.
Boris Jiménez-Sastre, on a souhaité vous interpeller, interpeller l'ensemble des candidats autour de thématiques sociétales et d'intérêts généraux qui sont au cœur du quotidien de nos concitoyens auditeurs et de leurs préoccupations sans nul doute, peut-être même ceux et très certainement de cette seconde circonscription du Tarn. On vous a donc demandé de tirer au sort une thématique, vous êtes tombé sur celle de la sécurité de la justice. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce point de vue-là ? Quelle est votre vision de la chose ou quelles sont vos propositions ?
Alors déjà, à l'heure où on enregistre cette émission, on vient d'apprendre qu'il y a eu un attentat en Angleterre. Et je tiens à exprimer toute ma solidarité avec les victimes de ces attentats. Par contre,
qui ressemble beaucoup à un attentat qu'on a nous-mêmes vécu en France d'ailleurs, oui, au passage, au Bataclan.
Tout à fait. Et justement, par rapport à ça, moi je tiens quand même à dire que ces victimes-là récoltent les fruits de la politique française, qui est un impérialisme de seconde zone, mais malgré tout, qui est présent en Syrie, qui est présent au Mali, qui est présent en Afghanistan, à chaque fois pour mener des intérêts qui ne sont, enfin, pour mener des opérations qui ne sont pas dans les intérêts des travailleurs, qui arrangent peut-être Total, qui arrangent peut-être Areva, qui arrangent peut-être tout un tas de grandes entreprises. Mais ce soutien aux dictateurs, ce commerce d'armes, toute cette violence que ça engendre, et ben voilà, on en subit les conséquences même ici, et on en devient des victimes. Et je suis pour le retrait des troupes françaises de tout leur terrain d'opération.
En termes de justice, avec notamment les récentes lois sur le travail, dit El Khomri. On veut plafonner les indemnités de licenciement, par exemple. Là aussi, on a un mot à dire sur cette notion de justice où finalement, ben, même le juge est encadré, n'est pas libre de juger l'espèce qu'il a à traiter. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce niveau-là, par exemple ?
Justement, par rapport à cette histoire de justice et de justice dans la société, moi je crois que c'est lié à cette histoire de sécurité. Moi je crois que la principale source d'insécurité aujourd'hui, c'est de pouvoir perdre son boulot. On n'est pas sûr de pouvoir en trouver un, on n'est pas sûr de pouvoir en garder un, et c'est surtout cette espèce d'épée Damoclès de la misère qui nous pend au-dessus de la tête, qui est la première insécurité aujourd'hui. Et parlant de justice, il n'y a pas de justice pour les salariés. Il n'y a pas de justice pour les salariés de GMS qui n'ont aucun moyen de savoir qui passe quelle commande. On n'a aucun moyen de. Il n'y a aucune justice pour les salariés de Vivarte, pour les salariés de Mime qui perdent leur boulot. Et juste, je voudrais terminer parce que c'est
absolument
aussi l'actualité.
Parce qu'après, on va vous laisser conclure.
Pour le procès.
Il va vous rester 30 secondes.
D'accord, pour le procès à ZF. On voit bien qu'un trust comme Total, responsable d'un accident industriel à Toulouse, n'est pas inquiété. Et pour terminer, je voudrais dire que m'adresser aux travailleurs qui sont tentés par le vote Front National, et pour dire que ce parti propage des idées de la division des travailleurs, de la division entre les pauvres, et ça montre bien qu'au-delà de son discours démagogique, bah, il est dans le camp de ceux qui cherchent à nous exploiter, les riches et les patrons. Et que les salaires bloqués, les licenciements et les conditions de travail dégradées, c'est les patrons qui nous les font subir, et il faudra que tous ensemble, on lutte contre eux.
Boris Jiménez-Sastre, merci beaucoup. On rappelle qu'avec Thierry Tiget, vous êtes candidat sur cette seconde circonscription pour Lutte ouvrière. À très bientôt. Merci.
Merci.
Retrouvez cette émission sur rdotan.fr.